Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De nouvelles restrictions sanitaires à Lyon et à Nice, des bars peut-être fermés à Marseille et en Guadeloupe. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tracé hier sa feuille de route pour les prochains jours pour lutter contre la recrudescence de cas de Covid-19.
Mais déjà, un assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles et les crèches, car les enfants sont moins malades et moins vecteur de transmission du coronavirus.
Des mesures diversement appréciées entre les médecins et les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves, vous l'entendrez. Pas d'annonce, en revanche, pour réduire les délais des tests, des labos toujours débordés en France, au Royaume-Uni aussi, alors que le gouvernement prône des tests massifs pour garantir la reprise de l'économie.
Et puis à la une encore, François Ruffin, député de la France Insoumise, qui accuse les gouvernements successifs d'être les complices de multinationales comme Bridgestone, qui supprime des emplois.
Et puis un étudiant australien pris pour cible par Pékin, il a appelé à manifester contre la politique chinoise et notamment son traitement des Ouïghours.
Et puis dans une dizaine de minutes, comme tous les vendredis désormais, nous retrouverons la radiographie du coronavirus de Nicolas Martin.
La France a enregistré 10 593 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. C'est un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc rappelé hier chacun à la responsabilité.
Il nous manque au fond un petit effort supplémentaire, un peu de réduction de contact dans la sphère sociale. Faire vraiment gaffe, utiliser par exemple le logiciel Stop Covid quand on va sortir dans un bar ou qu'on réunit des amis chez soi. Si vous avez téléchargé Stop
le
Covid,
ministre de la Santé, Olivier Véran, aux 20h de France 2 hier, après avoir renoué un peu plus tôt avec l'exercice des conférences de presse hebdomadaires, il a défendu la stratégie de l'exécutif face à une dynamique épidémique préoccupante, une stratégie différenciée suivant les endroits que nous détaille Mathieu Laurent.
Le gouvernement se dit cette fois en capacité de s'adapter à l'épidémie grâce à ses radars qui surveillent le virus. Seuil d'alerte dépassé dans 53 départements. Le virus qui circule à vive allure avant tout dans les grandes villes, d'où des dispositifs sur mesure sans tarder à Nice et Lyon. À Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris, si la situation se détériore. Et peut-être encore un peu plus de restrictions à Marseille et en Guadeloupe. Réactivité, localisée, bienvenue. Selon Jérôme Marty, président du syndicat de médecins, l'Union française pour une médecine libre.
Mettre des mesures un peu plus lourdes là où l'épidémie accélère, ça permet de garder quand même un temps d'avance. On ne peut pas se permettre d'être réactif, il faut être tout le temps proactif, c'est-à-dire il faut la précéder, parce que si on ne la précède pas, on perd du temps et quand on a perdu du temps, on ne le rattrape pas.
Combien de temps passé sans discours de la méthode sur les tests? Il était urgent de définir une doctrine, la priorisation de tests antigéniques et salivaires, réservés aux patients qui ont une prescription médicale, aux symptomatiques, aux soignants, ainsi qu'aux aides à domicile. Le principe de réalité l'a enfin emporté sur cette tentation du principe de précaution qui hante les gouvernants. Jérôme Marty.
C'est très en rapport avec la structure même de notre système franco-français. On sait qu'on a un poids administratif très important, un principe de précaution qui est très ancré, hein, qui date du sang contaminé. Et la problématique, c'est que bien souvent, on prend trop de temps, en tout cas, on perd du temps quant aux vérifications avant de mettre en place un nouveau système, ce système de tests, qui vont être une révolution dans la façon d'appréhender véritablement la prévention.
Pour ne plus avoir affaire à ces embouteillages devant des laboratoires saturés, 20 centres de prélèvement pour les publics prioritaires vont être déployés à Paris, à Trappes, à Bondy, à Évry, à compter de lundi prochain.
Et si un enfant est testé positif au Covid-19, il sera désormais isolé 7 jours chez lui, sans que ses camarades avec qui il a été en contact ne restent à la maison. Olivier Véran a expliqué hier cet assouplissement du protocole sanitaire en se fondant sur le nouveau rapport du Haut Conseil de Santé Publique, publié hier soir. Les enfants en primaire, en maternelle, en crèche sont peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes autour d'eux. Un changement de discours incompréhensible pour Rodrigo Arenas, président de la FCPE, la première fédération de parents d'élèves de l'enseignement public.
Il faut arrêter de raconter des bobards aux gens. Quand la parole publique change toutes les 4 matins en fonction de l'actualité ou du sondage à la mode, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. C'est une façon de faire diversion par l'incapacité du gouvernement à appliquer son propre protocole sanitaire pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas mis les moyens pour sa réussite. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec les enfants, avec les écoles, avec les enseignants, avec les adultes d'une façon générale, parce que tout à coup, c'est plus pratique. Un jour, il faut tester les enfants, après, il ne faut pas les tester, après, ils sont contaminants, après, ils sont plus contaminants, après, les parents font des attestations, après, les professionnels mettent des masques ou ils ne mettent pas de masques, enfin... Il faut arrêter de jouer en amateur, là, c'est sérieux, on parle du Covid, là.
Rodrigo Arenas, président de la FCPE. Plus de 30 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, avec un taux de transmission jugé alarmant en Europe, selon l'OMS. Israël est, quant à lui, le premier pays à reconfiner toute sa population dès aujourd'hui et pour 3 semaines. On y revient dans le journal de 7h30. Au Royaume-Uni, 5e pays au monde en termes de cas actifs de Covid, 10e pays au monde qui a le plus grand nombre de morts par million d'habitants, 626 en l'occurrence. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier de nouvelles restrictions dans le nord-est de l'Angleterre pour contenir la résurgence du nouveau coronavirus. Dès aujourd'hui, il est donc interdit de se rassembler entre différents foyers. Les lieux de divertissement devront fermer entre 22h et 5h du matin. La presse britannique parle de chaos et d'échec pour la gestion gouvernementale de la crise sanitaire, en cause notamment le manque de place pour se faire tester, comme l'a constaté Richard Place à Londres.
De grandes tentes blanches posées sur un parking, des vigiles à l'entrée et des marques au sol pour que ceux qui patientent respectent les distances de sécurité. Mais personne ne patiente. Il n'y a qu'Yvonne, qui approche d'un pas lent et fatigué. Depuis vendredi, elle a perdu le goût et l'odorat.
J'ai essayé de venir ici samedi. Ils m'ont dit qu'il fallait prendre rendez-vous en ligne. Je l'ai fait, puis j'ai téléphoné au 111 qui m'a renvoyé vers le 119 qui n'a rien fait. Alors, je tente à nouveau ma chance aujourd'hui.
Et Yvonne est chanceuse. Cette fois-ci, elle est acceptée. Rachel va l'être également et pour cause, elle a réservé en ligne pour son fils qui présente des symptômes. Avec son mari, ils n'ont pas quitté l'ordinateur des yeux tant qu'ils n'avaient pas le rendez-vous.
On a commencé hier à 18h. Et on a fini par y arriver à 10h ce matin. À mon avis, le gouvernement se plante complètement.
Un masque mal mis sous le nez, des yeux qui roulent d'inquiétude, Natacha est stoppée par les vigiles alors qu'elle essayait d'entrer directement sous la tente. Elle n'insiste pas et rebrousse chemin.
À mon travail, il y a quelques cas, alors ils ont demandé à tout le monde de faire un test. Je ne savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous. Je vais essayer d'autres centres parce que je ne peux pas travailler tant que je n'ai pas ce test.
Elle repart à toute allure. Yvonne, elle, ressort soulagée d'avoir été enfin testée. Elle va s'enfermer chez elle en attendant le résultat.
Boris Johnson au Royaume-Uni, Donald Trump, ce sont quelques-uns des politiques qui ont reçu un Ig Nobel hier, un prix loufoque qui se fonde tout de même sur des études scientifiques très sérieuses. Ces dirigeants britanniques ou américains ont réussi à démontrer scientifiquement que par leurs décisions en période de crise sanitaire, les responsables politiques pouvaient facilement tuer plus de gens que les médecins. C'est ce qui est ressorti donc de cette 30e cérémonie de remise des Ig Nobel. La crise sanitaire qui complique la présidence aux États-Unis, un juge fédéral a temporairement bloqué un projet de réorganisation de l'US Postal Service qui menace le déroulement de l'élection du 3 novembre prochain. Et au-delà de ces pressions autour du vote postal, le vote anticipé commence aujourd'hui en physique dans certains bureaux de vote américains. Et cela fait craindre d'autres tentatives de manipulation du scrutin par l'administration Trump. Il en sera question dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, entre 5 et 10 000 personnes dans le cortège parisien hier.
Difficile pour la CGT solidaire et la FSU de se faire entendre en pleine crise sanitaire, des perturbations limitées à la SNCF, à l'école et à l'hôpital. Et l'appel à manifester sur les suppressions d'emplois a trouvé un écho particulier hier avec l'annonce du japonais Bridgestone de fermer son usine de pneus à Béthune. Une annonce qui a fait réagir François Ruffin hier, il était dans le cortège à Paris.
J'ai entendu la même chose, je vous fais faire des copier-coller sur Whirlpool, qui est parti en Pologne, sur Goodyear, qui est parti en Pologne, sur Magneti Marelli, sur Continental, dont le pneumatique aussi, parti en Roumanie. Ça fait maintenant 2 décennies que j'entends les mêmes discours à chaque fois. Ils me saoulent, ils se foutent de notre gueule. Soit ils veulent vraiment rompre avec ça et ils mènent un combat contre cette Union européenne de la libre concurrence et contre cette Organisation mondiale du commerce du libre-échange, soit ils se taisent. Maintenant, il faut imposer des ruptures. Rupture avec la croissance, rupture avec la concurrence, rupture avec la mondialisation. C'est ce qu'on nous avait promis ce printemps, les nouveaux jours heureux. Et on ne voit rien du tout. À l'arrivée, tout ce qu'on a, c'est le même monde en pire. Le plan de relance, c'est quoi? Il y a 100 milliards. On sait que 25%, ça ira pour les 280 plus grosses entreprises du pays. Et en revanche, il n'y aura pas un euro pour les auxiliaires de vie sociale, pas un euro pour les assistantes maternelles, pas un euro pour les femmes de ménage, pas un euro pour les caissières, dont on a dit pourtant, dont le président de la République a pourtant dit au printemps, que le pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes dont nos économies rémunèrent et reconnaissent si mal. Et pourtant, il n'y aura rien dans le plan de relance, pas un euro pour eux.
Le député de la France insoumise, François Ruffin, il répondait à Anne-Laure Chouin. La bataille entre Veolia et Suez prend une nouvelle tournure et désormais le champ apparaît plus ouvert pour Suez face aux assauts de Veolia. Hier, le conseil d'administration d'Engie, principal actionnaire de Suez, s'est dit ouvert à toute offre du groupe qui parviendrait dans les tout prochains jours. Direction la Biélorussie à présent, puisque sa situation est débattue ce matin à l'ONU. Le conseil des droits de l'homme s'inquiète de l'ampleur de la répression depuis la réélection au forceps du président Alexandre Loukachenko. L'Organisation mondiale de la torture parle de crimes contre l'humanité. Les précisions à Genève de Jérémy Lanche.
Viasna est l'une des rares organisations de défense des droits de l'homme à encore travailler sur place. Depuis Minsk, l'ONG affirme avoir récolté des dizaines de témoignages de manifestants qui ont été arrêtés par la police, tous victimes de torture. Certains ont pris la parole par visioconférence, mais en dissimulant leur visage, de peur d'éventuelles représailles de la part des forces de sécurité. Celles-ci se livreraient à des humiliations, des privations de sommeil et de nourriture, et des passages à tabac. Des témoins racontent même avoir été électrocutés pendant leur détention, des pratiques qui seraient massives, explique Valentin Stefanovic de l'ONG Viasna.
La torture est partout. Ce n'est pas seulement à Minsk. On a reçu des témoignages venant de plusieurs villes. C'est une sorte de punition. Une punition collective et politiquement motivée après les manifestations contre le pouvoir. Par exemple, si la police trouve dans votre téléphone des photos de manifestations, elle vous marque avec de la peinture d'une couleur spécifique et vous êtes alors battu plus sévèrement que les autres. C'est la preuve que ces pratiques sont systématiques.
La répression serait telle qu'elle n'épargnerait pas les hôpitaux. D'après Viasna, si une personne blessée pendant une manifestation vient se faire soigner, le personnel de l'hôpital doit prévenir la police qui vient ensuite l'interroger. Des allégations difficiles à confirmer mais qui sont jugées suffisamment crédibles par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui s'est saisi en urgence de la question.
Jérémy Lanche à Genève pour France Culture. La Chine a loué hier l'efficacité, je cite, de ses centres de formation professionnelle pour assurer la stabilité au Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine. Après des accusations des États-Unis, d'autres pays occidentaux présentant ces centres en fait comme des camps de concentration destinés à l'internement massif de musulmans. C'est ce qu'avait dénoncé un étudiant australien. Il est désormais la cible de Pékin. On y revient dans le journal de 7h30. Masqués mais confiants plus que jamais, nous avons hâte de vous retrouver. Alors venez, c'est le message qu'envoient les 46 orchestres et opéras membres du syndicat Les Forces musical dont les deux orchestres de Radio France font partie. Ils signent une tribune publiée ce matin sur libération.fr. Le temps de ce vendredi 18 septembre, toujours ensoleillé, mais les nuages gagneront du terrain au fil des heures, accompagnés parfois d'averses et d'orages. Les températures sont comprises ce matin entre 10 et 15 degrés dans la moitié nord du pays. Comptez de 15 à 21 au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu, 7h13 sur France Culture.